Bien le bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. En studio, Mathieu Tessier.
Ah oui, ben oui, de mon côté.
Oui, à la régie, merci Mathieu. Bonjour. J'ai vu Francine Forget, ma fidèle collaboratrice. Bonjour.
Bonjour Hélène, et moi je suis en studio, hein, pas à la régie, parce que sinon ça serait une catastrophe.
t'es encore drôle, on connaît pas tous les talents des gens. Absente aujourd'hui, Catherine Emmanuelle Brunet, mais qui va nous revenir la semaine prochaine, et au micro, Hélène Bédard. Alors voilà, aujourd'hui, je vais présenter quelques sujets, je vais laisser d'abord Francine présenter les siens.
Oui, disons que c'est assez diversifié aujourd'hui. Alors on va poursuivre le dossier fraude au menu qu'on a commencé et qui est paru dans l'actualité. On va parler aussi de banque génétique. Et je vais commencer avec un papier sur le mensonge.
Wow! Oh, il y a beaucoup à dire, hein? Il y a beaucoup à ne pas dire.
Oui, c'est ça.
Merci, Francine. De mon côté, je vais vous parler d'une maison rose. Je vais aussi vous parler des aidants naturels. Mais avant tout, je vais vous parler de Irena Sandler. Je vous dis tantôt qui elle est. Je vous reviens. Alors voilà, nous allons tout de suite débuter avec Francine Forget et son papier sur le mensonge.
Le mensonge. Dans Le Voir de mai 2018, la chronique de Normand Baillargeon, sa chronique mensuelle, était intitulée « Mentir ». Une des plus remarquables différences entre un chat et un mensonge est que le chat, lui, n'a que 9 vies. Mark Twain. Je ne vous mentirai pas. Ce sont l'actualité et l'approche des élections qui m'incitent à vous parler cette fois du mensonge. Il faut dire que le sujet n'a cessé d'intéresser les philosophes, peut-être bien depuis ce jour où quelqu'un a eu l'idée d'attribuer à Épiménide, qui est un poète crétois, la phrase suivante « Tous les Crétois sont des menteurs ». Je suis désolée si je vous casse un peu le coco. Depuis toujours, deux grandes questions concernant le mensonge sont surtout discutées en philosophie. La première est celle de la définition du mensonge. Qu'est-ce exactement que mentir et à quelles conditions peut-on parler de mensonge? La deuxième demande s'il existe ou non des mensonges qui seraient justifiés voire nécessaires. Bref, le mensonge est-il ou non toujours immoral? Prenons la première question. On dit souvent que mentir, c'est de ne pas dire la vérité. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, comme le montrera un petit moment de réflexion. Un formulaire me demande de préciser une infraction que j'aurais peut-être commise. C'est le cas, mais je ne le dis pas et n'écris rien. Il est clair en ce cas que je mens. C'est un mensonge par omission. On peut donc mentir en ne disant rien. Mais on peut aussi mentir en disant la vérité. Ce sera le cas si on l'a dit, mais en cachant une partie, laquelle serait essentielle pour que notre interlocuteur comprenne pleinement ce que j'ai dévoilé. On peut même mentir en disant toute la vérité. Considérez un tel qui est un tueur à gages de son métier. À sa femme, qui l'ignore et qui lui demande ce qu'il a fait de sa journée, il répond avec un sourire ironique qu'il a tué 2 personnes. Il a menti en disant la vérité. Dans la nouvelle « Le mur » de Jean-Paul Sartre, un personnage que l'on torture finit par dire, pour leurrer ses tortionnaires, que telle personne recherchée par ses bourreaux et qu'il pense être chez un ami se cache au cimetière. Les tortionnaires y vont et la trouvent bien là. Le torturé a par hasard dit vrai en mentant. On multipliera les exemples montrant que définir le mensonge par le fait de ne pas dire la vérité est insuffisant. En fait, ce qui caractérise le mensonge, plutôt que la vérité ou la fausseté de ce qui est avancé, ou même le fait que quelque chose soit avancé, c'est la volonté de tromper, d'induire en erreur. Un mensonge est donc une machine destinée à berner, à faire en sorte, par exemple, que notre destinataire tiendra pour vrai quelque chose qui ne l'est pas ou pour faux quelque chose qui est vrai. Cette intention intéressée permet encore de distinguer le mensonge de tous ces autres cas où une personne dit ce qui est faux, mais par ignorance et sans vouloir induire en erreur. L'élève qui répond que c'est Albert Camus qui a écrit « Le mur » ne ment pas, il se trompe. On pourrait raffiner encore cette définition, et je ne vous ai même pas parlé de cette possibilité de se mentir à soi-même, au moins aussi troublante que mon crétois de tout à l'heure. Mais posons que cette définition est suffisante pour tenter une classification des manières par lesquelles des hommes ou des femmes politiques pourraient nous mentir. Je ne donnerai aucun exemple, à vous de les fournir. Ce qui ne devrait pas être trop difficile. À l'évidence, une première forme de mensonge politique consiste à sciemment affirmer ce qui est faux en cherchant à le faire passer pour vrai. Tant que ce vrai n'est pas connu, le mensonge remplit la fonction que voulait lui faire jouer le menteur. Cela peut prendre du temps avant que le mensonge soit dévoilé au grand jour, plusieurs vies même. La promesse électorale peut fort bien elle aussi être une forme de mensonge. Imaginons une politicienne sachant telle chose impossible à réaliser, ou très peu probable, mais qui prend l'engagement formel de la réaliser. Ce faisant, elle ment. Il existe aussi, on peut le penser, à tout le moins en théorie, un mensonge systématique, organisé, planifié. On le retrouverait dans diverses formes de calculs électoraux par lesquels on décide de ce qu'il convient de dire aux électeurs, sans égard pour la vérité et avec pour seul but de gagner des votes. La propagande est la forme la plus extrême de ce mensonge politique. Il existe encore en politique comme dans la vie courante un mensonge par omission. Il est trop facile d'imaginer des exemples. Je suggère enfin qu'il peut exister en politique un mensonge accidentel, un mensonge par la vérité. Imaginons un politicien qui promet X tout en sachant qu'on ne peut raisonnablement penser que cette promesse pourra être remplie. Mais voilà, par des circonstances totalement indépendantes du parti porté au pouvoir, notamment sur cette promesse, celle-ci est remplie. Le parti se présentera à la prochaine élection comme celui qui tient ses promesses, inventant en quelque sorte par là un mensonge au deuxième degré. Alors, réflexion sur mentir dans le magazine Voir de mai 2018, et évidemment, c'est signé par notre philosophe favori, Normand Baillargeon.
Mais dites-moi, Francine, si on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire,
oui.
Est-ce qu'on ment?
Alors, nous allons écrire à M. Baillargeon et peut-être fera-t-il une autre chronique sur le sujet.
Bonne idée. Merci, Francine.
Je pourrais te dire de peu d'enfants, ils vont revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire que tu peux compter sur moi.
Je pense qu'on en mérite.
par faire la paix avec le trou dans ton ventre. Le soleil reviendra entre tes jambes.
Lydia Kepinski, apprendre à mentir. Il n'y a pas de E, mais voilà.
Tout à fait d'appoint, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, Hélène Bédard au micro. Moi, je vais vous entretenir d'une maison, une maison rose. Un très beau texte que je vais vous lire. C'est écrit par Daniel Bonneau. C'est paru dans la presse 22 juin 2018, donc très, très récemment. En fait, c'est une maison vieille, une maison ancienne, qui attire la curiosité. C'est le cas de cette demeure patrimoniale le long du chemin de Côte-Saint-Antoine à Notre-Dame-de-Grâce. Tout ça, c'est à Westmount. Voici l'histoire de cette maison rose. Et elle est réellement rose. J'ai été la voir. Pour l'amour du passé, la maison rose, comme elle est appelée affectueusement, attire le regard. Collée contre le trottoir à l'intersection du chemin Saint-Antoine, comme je le disais, et de l'avenue Vendôme, elle se dresse fièrement, indifférente au passage des voitures qui, depuis, ont remplacé les calèches. Donc, visitons avec sa propriétaire, et attention, qui y habite depuis 60 années. Je vous invite à suivre. Patricia Claxton connaît chaque recoin de sa célèbre maison aux briques d'un rose bonbon. Et pour cause, elle y a aménagé en 59 avec ses fils, David et Ted, qui n'avaient que 5 et 3 ans. Sans s'en douter, en prenant le flambeau que lui tendait son beau-père, M. Brooke Claxton, propriétaire de l'habitation depuis 1925, elle s'inscrivait à son tour dans l'histoire peu commune de la demeure patrimoniale. C'est avec plaisir qu'elle les a fait visiter sa maison, littéralement de la cave au grenier. C'est dommage d'avoir tout cela et que ce soit caché, souligne-t-elle, cette dame de 88 ans qui traduit de la poésie de façon immérite depuis des années. Selon plusieurs sources, le carré original daterait de 1698, et remonterait à Michel Descarré, qui deviendra plus tard Descarré, arrivé en Nouvelle-France avec Jeanne Mance et faisant partie des braves colons qui se sont établis à l'extérieur des murs de Ville-Marie et afin de cultiver la terre. Sans cérémonie, faisant fi du danger, cet octogénaire de 88 ans descend le vieil escalier abrupt menant dans la cave, dont la partie la plus ancienne est en terre battue. Dans cette section, outre les impressionnants troncs d'arbres, qui soutiennent le plancher du rez-de-chaussée, la présence de meurtrières percées dans d'épais murs de pierre des champs frappe l'imagination. C'est plein de surprises ici, souligne-t-elle, en se rendant dans la cuisine aménagée derrière la section originale de l'habitation. Un mur de pierre des champs sépare la cuisine du salon. La porte d'entrée se trouvait à l'arrière au début. La maison a été entièrement couverte de briques, lorsqu'elle a été agrandie. En héritant de la maison, Félix Descarré devait, en effet, respecter la volonté de son père Joseph et l'envelopper de briques moyennant qu'elles proviennent de la briqueterie de ses deux frères. La trace des pattes de petits animaux visibles à certains endroits témoigne de la fabrication artisanale des briques séchées au soleil. Vraiment toute une aventure, cette maison. Madame Claxton, elle a aussi mis son empreinte dans la maison. Bon, évidemment, elle a changé la plomberie, elle a modernisé la cuisine, elle a remplacé les meubles victoriens par des meubles et accessoires choisis avec soin chez les antiquaires des cantons de l'Est. C'est dans son bureau à l'étage, d'ailleurs, qu'elle traduit du français vers l'anglais les deux ouvrages liés à Gabriel Leroy, qui lui ont d'ailleurs valu le prix du gouverneur général en 87 et en 99. Pardon. Sa maison rose, elle ne la verrait pas autrement. Le voisinage non plus a-t-elle constaté il y a quelques décennies quand il a fallu repeindre l'extérieur. Depuis quand la demeure arbore-t-elle sa couleur inusitée? Elle ignore, mais selon Janet McKinnon, auteure de mémoire de maîtrise sur les habitations construites le long de cette côte Saint-Antoine, la demeure et les briques ont été peintes à la fin des années 30 ou au début des années 40. La demeure est d'un calme surprenant malgré sa proximité avec le trottoir qui témoigne du changement du tracé de la route et de son élargissement au fil du temps. « Je n'enlève pas les fenêtres doubles, dit-elle, qu'il n'a aucune envie d'habiter ailleurs. À son grand soulagement, son fils cadet veut un jour prendre la relève et rénover la maison à son tour pour s'y installer. » J'étais content très jeune que la maison n'était pas comme les autres, dit-il. J'avais plein d'histoires dans la tête. Les meurtrières dans la cave me faisaient penser aux gens qui se défendaient contre les Amérindiens. J'ai toutes sortes de souvenirs. La maison construite et rénovée à différentes époques n'est pas un musée. Le défi sera d'atteindre un équilibre entre le nouveau et l'ancien. Son fils caresse aussi un autre projet, celui de retracer des semences du fameux melon de Montréal, cultivé par des membres de la famille Descarrés et servi dans les plus grands hôtels à Montréal, Boston et New York, au tournant du 20e siècle. En les plantant, il souhaite perpétuer une autre facette de l'histoire de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, c'était un texte de Daniel Bonneau sur la Maison Rose, sur la rue Côte-Saint-Antoine à Notre-Dame-de-Grâce.
L'allergie, moi aussi. J'ai brûlé des machines, la cime de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. Ma maison, ma maison, ma maison, ma l'effort, le travail, l'allergie, moi aussi je peux. L'hiver, je peux moins.
Urbain Desbois et sa chanson Ma maison travaille plus que moi.
Merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, tu as de la suite dans les idées. Tu nous écoutes vraiment très bien. Merci. Nous allons continuer avec Francine qui nous amène dans.
Mais je vais vous parler de banque génétique. Que vous avez parlé des Descarrés qui sont devenus les Descarrés.
Tout à fait.
Alors, Alexis Riopel, dans la presse d'ailleurs, du 24 juin 2018, nous parle de banques génétiques qui valent de l'or. Depuis quelques années, des centaines de milliers de Canadiens ont acheté des trousses d'analyse de l'ADN afin de découvrir d'où viennent leurs ancêtres. Ou encore d'évaluer leur prédisposition à certaines maladies. Mais la salive qu'ils envoient par la poste pourrait rapporter bien plus aux entreprises que les dizaines de dollars qu'ils déboursent. Vous voulez en apprendre un peu plus sur vous-même? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à commander une trousse en ligne pour environ 100 $. Frottez l'intérieur de votre joue avec un coton-tige, répondre à quelques questions, et retourner le tout par la poste. Quelques semaines plus tard, on vous dira de quelle région du monde proviennent vos ancêtres et on comparera votre profil génétique à celui des autres utilisateurs du service pour voir si vous n'auriez pas un parent inconnu quelque part dans le réseau. Certaines entreprises vous proposent même d'évaluer votre prédisposition à certaines maladies comme le cancer du sein, l'Alzheimer ou le Parkinson. Cette promesse a convaincu en 2017 environ 6 millions de personnes d'acheter des tests génétiques, portant le total à environ 12 millions de clients dans le monde. Ancestry DNA, qui détient la plus grande part de marché, aurait trouvé quelques centaines de milliers de clients au Canada depuis le début de ses activités au pays en 2015, selon Brad Argent, un porte-parole. L'adoption au Canada est phénoménale, ajoute-t-il. D'autres entreprises comme 23andMe, MyHeritage, FamilyTree DNA et la québécoise Biogénique sont également en expansion. Puisque les échantillons de salive passent les frontières sans encombre, la concurrence s'arrache la planète entière. Ces données génétiques n'intéressent pas que leur hôte biologique. De plus en plus, le modèle d'affaires de ces entreprises est orienté vers la vente de données à des sociétés pharmaceutiques ou vers des partenariats avec celles-ci, explique Yann Joly, qui est directeur de la recherche au Centre de génomique et politique situé au Centre d'innovation de l'Université McGill et de Génome Québec. Elle se constitue une grande banque de données, alors on parle de des entreprises, en offrant des analyses génétiques à leurs clients, puis vendre l'accès aux données à des sociétés pharmaceutiques pour un bon montant afin de contribuer à certains projets de recherche ciblés. Normalement, les sociétés payent les patients pour faire un essai clinique. Là, ce sont les patients qui payent, dit Daniel Sinette, qui est chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur à l'Université de Montréal. Les entreprises demandent le consentement des participants avant de transmettre leurs données génétiques à des fins de recherche. Évidemment, le nom des participants est omis, mais le reste de leur dossier est transmis à la tierce partie afin qu'elle puisse mener des études statistiques avec les données. Actuellement, la plupart des gens choisissent de rendre leurs données accessibles pour la recherche, indique Brad Argent d'Ancestry DNA. Même son cloche du côté de 23andMe, dont 80 % des clients acceptent de participer à la recherche. Les deux plus grandes entreprises dans l'industrie, Ancestry DNA et 23andMe, participent à des programmes de recherche privés et publics. Ancestry DNA a vendu un accès à ces données à Calico, entreprise de biotechnologie parente avec Google. Toutefois, Ancestry DNA relègue la revente de données au second plan, se concentrant plutôt sur les services qu'elle offre à ses clients. L'entreprise californienne 23andMe, à ses partenaires universitaires, fournit ses données essentiellement gratuitement. Elle n'offre pas encore à ses clients canadiens l'option de participer à la recherche via leur génome. Chez Biogenic, entreprise québécoise, qui compte plus de 10 000 clients, les données ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche médicale. Le modèle d'affaires de 23andMe, c'est la valorisation des données. Nous, c'est le service que nous offrons à nos clients, indique Étienne Crevier, le PDG. Pour sa part, l'américaine Family Tree DNA promet de ne jamais vendre les données de ses clients à autrui. MyHeritage, de son côté, demande une autorisation à ses clients afin de pouvoir revendre les données. Ces entreprises sont parmi les plus sérieuses, mais d'autres pourraient être moins transparentes. Les politiques de consentement pour ces tests varient énormément, avertit Yann Joly de Génome Québec. Alors, Alexis Riopel nous parlait de banques génétiques qui valent de l'or dans la presse plus du 24 juin 2018.
Francine,
oui.
Allez-vous participer à ce test?
Non.
Non.
Non. J'aime pas beaucoup révéler ce que je suis de cette manière. Non, okay. Non.
Moi, je vais y penser.
Oui,
merci
OK.
Merci beaucoup. Merci, Francine.
Merci encore une fois, Francine. Vous nous faites réfléchir à chaque fois plein de choses. Merci beaucoup. De mon côté, Hélène Bédard au micro. Donc, de mon côté, je vais vous parler de Irena Sandler, une dame décédée à 98 ans. Cette dame, elle demanda pendant la Deuxième Guerre mondiale à aller travailler dans le ghetto de Varsovie comme plombier serrurier. Elle avait une motivation bien particulière. Elle connaissait les plans d'extermination des nazis envers les Juifs. Elle était polonaise. Irena a caché des enfants dans le fond de sa boîte à outils qu'elle transportait à l'arrière de son véhicule, ainsi qu'un grand sac pour les enfants plus grands. Elle avait aussi un chien qu'elle avait entraîné à aboyer quand les soldats allemands la contrôlaient à l'entrée et à la sortie du ghetto. Le chien ainsi, en japon, couvrait le bruit que pouvaient faire les enfants. Elle sauva ainsi 2500 enfants en les cachant un par un de cette façon.
Elle fut arrêtée, malheureusement. Les nazis la torturèrent très sévèrement. Ils lui ont brisé les jambes et les bras et en restera infirme pour le restant de sa vie. Ensuite, Irina garda tous les noms des enfants qu'elle avait sortis du ghetto et garda ces noms enterrés dans des bouteilles de verre enterrées au fond de son jardin sous un pommier. Après la guerre, elle essaya de localiser tous les parents qui avaient pu survivre et tenta de réunir les familles, mais la plupart avaient été gazées. Les enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans des familles d'accueil ou ont été adoptés. Irina Sendler meurt sans avoir reçu le prix Nobel de la paix pour lequel elle avait été nominée en 2007, année où malheureusement il fut attribué à Al Gore pour son film sur le réchauffement de la planète. On garde d'elle un symbole de la résistance face aux horreurs qu'ont pu commettre des êtres humains envers d'autres êtres humains, qu'il considérait comme indigne de vivre. Elle a eu comme distinction l'ordre du sourire, attribué chaque année des personnalités œuvrant pour le bonheur et le sourire des enfants. Ce prix est décerné par les enfants du monde entier. Le Parlement polonais a déclaré la nuit 2018 année Irina Sendler. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Elle avait toujours pensé qu'elle n'était pas une héroïne et regrettait d'avoir fait si peu. Elle disait aussi « On ne plante pas des graines de nourriture, on plante des graines de bonnes actions. » Essayer de faire des chaînes de bonnes actions pour les entourer et les faire se multiplier. En sa mémoire, je participe à cet anniversaire très modestement en vous lisant ce très, très, très court message. J'espère pouvoir vous reparler de cette femme admirable afin de la faire connaître au monde entier. C'est un modèle de courage. Irina Sendler, décédée à 98 ans. Écoutez, restez avec nous pour la suite de l'émission Les Voix de service. Nous vous reviendrons immédiatement après la pause, donc notre deuxième volet se poursuit dans quelques instants. Merci.
Vous écoutez les voix de service.
J'aimerais tant briser vos rêves, vous détruire à grands coups de rire, vous piétiner comme un taureau enragé. Un jour j'irai marier mes vices à ceux des dieux rois des malices pour vous tuer à coups de couteau, à coups de couteau passionné. Tout ça sans votre permission, sans même vous demander pardon. J'ai surestimé vos cris, j'ai sous-estimé mes envies, j'ai surestimé mes torts, j'ai sous-estimé le décor. Et depuis, les remords viennent manger mon corps. J'aurais préféré marcher sur des chemins déjà pavés. J'aurais préféré jouer à un jeu où je pouvais gagner. Et toujours, les remords viennent manger mon corps. J'ai beau adorer vous détester, j'ai beau adorer vous lapider, j'ai beau adorer l'odeur de votre corps à demi brûlé. Toujours et encore, les remords viennent manger mon corps. J'irai seul dans ma maison. corps déployé. Oubliez tous ces moments passés à vouloir vous arracher cesseront de manger mon corps.
Fin de l'album Punct de Pierre Lapointe.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, nous revoilà. Merci d'être revenu avec nous. Nous sommes en studio, Francine Forget, Aline Bédard. Alors, Francine Forget va nous entretenir de la fraude au menu.
Oui, Hélène, je poursuis la lecture de ce dossier fascinant de l'actualité, l'édition de juillet 2018. En fait, qui pose la question, savez-vous vraiment ce que vous mangez? Hein? C'est ça la question. Mm-hmm. Alors, c'est une enquête extrêmement fouillée de Valérie Borde. Alors, je vous lis maintenant une partie qui traite de scientifiques contre fraudeurs. Et vous allez voir que ça, on peut faire un parallèle avec le dopage sportif. Dans ses laboratoires de Longueuil, Mark Hamilton, c'est pas le chanteur là, patron et fondateur du groupe Environex, aimerait bien inventer une analyse qui permettrait de déterminer à coup sûr ce qui est du sirop d'érable québécois et ce qui n'en est pas. Pour cela, son équipe a testé des échantillons prélevés dans les érablières du Québec en utilisant la méthode KOAC International, une organisation scientifique de référence pour les méthodes analytiques préconise pour distinguer le sirop des autres sucres. Selon ces tests, même du sirop d'érable ultra pur serait classé comme faux, raconte ce microbiologiste de formation qui ressemble beaucoup au Gérard Desbertieu d'il y a 20 ans. La science a beaucoup progressé ces dernières années, mais l'analyse des aliments est bien plus difficile que ce que l'on imagine. Une épice, de l'huile d'olive ou un grain de riz contiennent des milliers de molécules dont les concentrations sont influencées par de multiples facteurs, tels que la nature du sol sur lequel une plante a poussé, ou bien les transformations subies par l'aliment, comme le séchage. Trouver l'empreinte digitale qui garantit l'authenticité d'un aliment n'est donc pas une mince affaire. Pour y parvenir, il faut analyser des milliers d'échantillons afin de construire une base de données de référence à laquelle on pourra ensuite comparer un produit. Pour arriver à des résultats parfaitement fiables, on devrait pouvoir s'appuyer sur de vastes banques de données internationales sur les aliments. Mais personne ne veut partager des données qui ont coûté très cher à récolter, m'explique Mac Hamilton, qui s'avoue un peu découragé. Ces données, pas toujours fiables, ont de quoi freiner sérieusement le développement du marché de la détection de la fraude. Environex mène des analyses agroalimentaires pour environ 1000 entreprises, principalement québécoises. Depuis quelques mois, la société de 250 employés est assaillie de demandes d'expertise pour de la fraude alimentaire. On se limite aux analyses incontestables, souligne le patron. Depuis 2009, Chris Elliott a réalisé des milliers d'essais à son centre de recherche de l'Université Queen's à Belfast, un des mieux équipés dans le monde pour détecter la fraude alimentaire. Dans 4 grands labos spécialisés par type d'analyse, les paillasses et frigos débordent d'échantillons de toutes sortes d'aliments fournis par des entreprises ou achetés dans des magasins. C'est là que son équipe a notamment découvert que près du quart de l'origan vendu sur la planète n'en était pas. N'allez surtout pas croire que les épices les plus chères sont les plus pures, me prévient-il. Sous la direction de Chris Elliott, une vingtaine de chercheurs élaborent de nouvelles techniques pour augmenter la palette d'analyses qu'entreprises et agences réglementaires utilisent déjà. Lors de ma visite, deux jeunes scientifiques découpaient des morceaux de porc avec un laser chirurgical pour analyser la fumée qui s'en dégageait et voir si elle pourrait servir à déterminer la nature de la viande. Un autre testait un petit appareil optique relié à un téléphone intelligent qui, posé sur un sac de riz basmati, permettrait de le distinguer d'autres sortes de riz. Mais si les progrès sont bien réels, il y a cependant un monde entre ces techniques expérimentales et des résultats à l'interprétation incontestable nécessaires pour confondre les tricheurs devant les tribunaux. Des médias l'ont appris à leurs dépens récemment. La CBC, qui a fait analyser des sandwichs au poulet par des chercheurs de l'Université Trent en Ontario, est poursuivie pour diffamation par Subway pour 210 millions de dollars. La chaîne conteste l'interprétation des tests d'ADN qui auraient révélé la présence de soya dans des poitrines de poulet censées être 100% pures. Le magazine Protégez-vous, pour sa part, a dû présenter des excuses à un apiculteur québécois après avoir reconnu que le test de son miel, réalisé par un grand laboratoire industriel européen, ne prouvait pas, hors de tout doute, que l'apiculteur avait triché. Ce dossier et cet article sont assez longs, alors je vais m'arrêter ici, Hélène, et je vais poursuivre sa lecture un peu plus tard.
Merci beaucoup, Francis. Bien, moi, je vais poursuivre pas tout à fait dans le même ordre d'idée, quoique ça se recoupe un peu. Je vais vous parler des filles du roi, les mères de notre nation. Alors, les filles du roi, probablement qu'il n'y avait pas le temps de faire de la fraude au menu, là. C'était plus. Les aliments étaient plus bruts et plus naturels. C'est un texte de Christian Rioux qui est paru dans Le Devoir. Il y a 350 ans, le premier contingent des filles du roi débarquait à Québec. 800 filles qui arrivent en une décennie à peine. Marqueront de leur empreinte indélébile le destin du Québec. Il faudrait les nommer toutes à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve d'où elles sont sorties au XVIIe siècle, pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. C'est ainsi que la romancière Anne Hébert évoque l'arrivée des filles du roi dans un roman écrit en 1988. Le premier jardin boréal raconte l'histoire d'une comédienne québécoise vivant à Paris, revenue au pays jouer une pièce de Beckett. À mesure qu'elle arpente les rues de Québec, surgissent les fantômes des filles du roi, comme si la vision qu'Anne Hébert avait du Québec était inséparable du destin de ces femmes venues mettre au monde un pays. Anne Hébert rend hommage à ces femmes. Elle en offre une vision sensuelle, mais souvent ambiguë, une vision féministe qui montre aussi leur caractère tragique et illustre la destinée amène de ces filles. Il ne fait pas de doute que ces femmes sont les mères de la nation et qu'elles méritent toute notre reconnaissance. Les filles du roi représentent la moitié des femmes venues s'établir entre 1608 et 1760. Quand meurt la dernière de ces filles du roi, le Canada a retrouvé son équilibre démographique. Lorsqu'on connaît la suite, la perte de l'Acadie en 1715, la conquête en 1760 et le projet d'assimilation de Lord Durham, il apparaît évident que le Canada français n'aurait jamais survécu sans elles. Ces femmes étaient tenaces et courageuses. On avait choisi les plus fortes. Elles ont marqué les mentalités et la conscience collective. Si les femmes québécoises ont beaucoup de caractère, c'est probablement en partie à elles qu'on le doit. L'historien Yves Landry reconnaît que la situation exceptionnelle de ces femmes a certainement pu marquer l'identité québécoise. Ces femmes avaient le choix de leur mari. Eh oui. Elles avaient beaucoup plus de pouvoir qu'en France où le mariage était souvent arrangé, même si la liberté était plus grande dans les milieux populaires. Ici, ces femmes décidaient sans la pression familiale. C'est même elles, pouvait-on dire, qui avaient le gros bout du bâton. On pouvait donc y voir une des sources d'un certain matriarcat québécois. Fortes de leur petit nombre, les filles du roi n'hésitent pas à rompre leur contrat de mariage. 11% des cas qui a été noté. C'est beaucoup plus qu'en France. S'ajoute à cette position de force le fait que les hommes de la colonie sont souvent absents. Elles se retrouvaient souvent seules, au milieu de la nature. Il fallait tout un caractère pour affronter ces conditions. Il raconte l'histoire de Marie Chanvreux, morte le premier hiver, dans cette beauté blanche qui fascine et qui tue.
Yves Landry attribue aussi en partie à ses filles du roi le brassage social qui caractérise le Québec. À l'époque, il y a très peu d'endogamie. On se marie presque avec le premier venu. Des nobles épousent des roturières. Ainsi, Marie-Claude Chamois, fille d'un secrétaire du roi, épouse-t-elle un simple coureur des bois, François Frigon. Ce dernier ne lui léguera d'ailleurs que des dettes. Si au Québec les différences de classe sont peu marquées, on le devrait donc au brassage social que provoque notamment l'arrivée des filles du roi. Pour l'historien français Didier Poton, il ne fait pas de doute que sans elle, le Québec français ne serait pas là. Cet effort royal sera pourtant bref. Au bout de 10 ans, il s'arrête et la colonie doit à nouveau compter sur ses propres moyens. En 1673, la métropole n'envoie plus de filles du roi. Il y a des raisons budgétaires à cela, mais surtout à cause de la guerre avec la Hollande. Il faut protéger la frontière nord et la Manche. C'est sur ce continent que la France concentre ses forces et que se jouera le sort de la colonie. Mais l'héritage des filles du roi n'est peut-être pas que positif. Dans les filles du roi au 17e siècle de Leméac, Yves Landry montre que seulement le tiers des filles du roi savaient signer leur nom. Si l'on considère qu'elles venaient des filles où l'alphabétisation était déjà répandue, cela témoigne d'une pauvreté culturelle propre aux couches les plus démunies de la société. Il reste encore beaucoup à apprendre sur ces filles. Il faut les sortir des statistiques, raconter leur histoire, faire de l'histoire comparée et voir ce qu'elles nous racontent. Au-delà de la vérité historique, les filles du roi ont créé un mythe que chaque génération réinterprète à sa façon. Anne Hébert décrivait avec finesse ses filles, ou encore comme ceci, ces jeunes corps voués sans réserve à l'homme, au travail et à la maternité. Reprenant une lecture nationaliste, elle raconte leur départ sur un grand voilier, traversant l'océan durant de longs mois pour venir vers chez nous qui n'existions pas encore, pour nous sortir du néant et de l'odeur de la terre en friche. Signe que le mythe n'est pas mort et qu'il a peut-être encore beaucoup à nous apprendre. Un très beau texte sur Les filles du roi par Christian Rioux, paru dans Le Devoir.
Va me coucher tôt. Si tu veux.
Mais hey babies, je suis pas une femme à marier.
Merci beaucoup Mathieu. Alors nous allons poursuivre avec Francine Forget et la poursuite de son article sur le fraude-menu, c'est
ça? Oui, c'est ça, l'article qui s'intitule « Scientifique contre fraudeur », volet 2. À Ottawa, Maude Guinville-Vachon me fait visiter le laboratoire de chimie alimentaire Carling de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, où sont centralisés les tests sur l'adultération des produits. Dans trois salles un peu vieillottes, mais à la sécurité strictement contrôlée, des dizaines d'appareils permettent de mener toutes sortes d'analyses selon les produits à tester. Mieux vaut être polyvalent. L'habile technicienne est très fière de maîtriser les 12 tests différents à faire pour authentifier un échantillon d'huile d'olive selon le protocole édicté par le Conseil oléicole international. On est le seul labo en Amérique du Nord à être agréé pour faire ces analyses qui peuvent servir de preuve légale, m'explique-t-elle. La plupart des machines sont cependant en veille, car seuls 4 techniciens travaillent dans ce labo. Il nous faut 60 jours pour analyser un échantillon d'huile d'olive, 20 jours pour du miel et 30 jours pour un jus ou du sirop d'érable, précise Neil Vary, responsable du laboratoire. Alors que le risque de fraude augmente, le nombre d'analyses tend à diminuer. En 2017, seuls 441 échantillons ont été analysés, contre 641 en 2012. Le tiers des huiles d'olive testées au laboratoire sont pourtant non conformes. Rod Scarlett, qui est directeur général du Conseil canadien du miel, dont le siège est à Calgary, estime que la CIA est larguée face aux fraudeurs. Pour le miel, on aurait mieux besoin de tests plus poussés et plus nombreux, dit cet apiculteur albertain. On contrôle le miel de Chine parce qu'on sait que les principaux trafiquants sont là-bas. Mais le miel chinois nous arrive avec des étiquettes européennes et du coup, on le laisse passer. Comme dans le dopage sportif, les fraudeurs sont rusés. Dès qu'une analyse permet de détecter un adultérant, ils s'adaptent. Pour les prendre de vitesse, il faudrait des techniques plus avancées. L'analyse de l'ADN est prometteuse, car elle permet de détecter des substitutions entre espèces de viande, de poissons ou de plantes. En 2017, la CIA a demandé à Robert Hanner, professeur de génomique, voilà, c'est dit, à l'Université de Guelph, d'examiner l'ADN présent dans 100 saucisses achetées dans des épiceries de Montréal, Toronto et Calgary. Parmi les 15 saucisses de dinde analysées, 5 étaient en réalité du poulet, alors que sur les 27 saucisses de bœuf, 7 contenaient du porc en quantité supérieure à 1%. Et sur les 38 saucisses de porc, une contenait au moins 1% de cheval. Avec de tels pourcentages, j'ai du mal à croire à des contaminations accidentelles, affirme ce barbu très impliqué dans la lutte contre la fraude que je rencontre dans les bureaux à peine aménagés de TRUID, la société qu'il a installée en bordure du campus pour vendre l'analyse d'ADN à l'industrie alimentaire. Aline Dimitri, chef adjointe de la salubrité des aliments à l'agence, me met en garde contre des conclusions hâtives. Pour la dinde, c'était une erreur de l'entreprise. Pour le cheval, on enquête, mais l'usine a fermé depuis. Et pour le reste, on est encore à analyser ce que les résultats nous disent vraiment, prévient-elle. Cette étude va surtout aider la CIA a décidé si elle veut poursuivre dans son intention de procéder aux analyses de l'ADN. Mais avec un budget en baisse, l'agence parviendra-t-elle à regarnir ses laboratoires? Alors, dans le dossier fraude au menu de Valérie Borde, actualité juillet 2018, c'était l'article où on nous parlait des scientifiques contre les fraudeurs.
Merci beaucoup, Francine. Fort intéressant et ça laisse beaucoup à réfléchir hein, dans nos choix. Je vais vous lire, j'ai une petite brève ici, fort intéressante, qui me parvient de l'actualité. Et ça s'intitule « La prison plutôt que la solitude ». Savez-vous qu'au Japon, les arrestations impliquant les aînés, et en particulier les femmes, augmentent à un taux plus élevé que toutes les autres tranches d'âge de la population? Ainsi, une femme sur 5 dans les prisons de ce pays a plus de 65 ans. La pauvreté et la solitude pousseraient bon nombre de ces femmes à commettre des crimes mineurs. Le vol et l'étalage, c'est 90 % des accusations. Parfois expressément pour aller en prison, où elles trouvent logement, repas et compagnie. C'est une petite brève qui laisse à réfléchir énormément. Et pour faire suite à celle-là, j'ai trouvé un autre très beau texte écrit par Lorraine Bissonnette. Lorsque je serai très vieille, j'ai dit à mes enfants, lorsque je serai très vieille et malade, ne me mettez pas dans un CHSLD ou dans un mouroir où je devrais me mettre à jouer aux cartes, faire de la danse en ligne, jouer au bingo, jouer au bowling. J'ai détesté ça toute ma vie. Laissez-moi chez moi, avec mes pinceaux, mes couleurs, mes livres, mon ordi. Laissez-moi observer, photographier les oiseaux, cuisiner quelquefois pour vous recevoir. Et si j'ai besoin de soins à l'occasion, ne vous empressez pas de m'expédier dans une maison de retraite. Tant que je serai vivante, les choses de la vie m'intéresseront. Les odeurs, les couleurs, les voix humaines, les animaux, les fleurs, les plantes et surtout, surtout les petits-enfants. Vieillir, on n'y échappe pas, personne n'y échappe. Et vous aussi, vous vivrez ce passage obligé si vous avez la chance de vivre suffisamment longtemps pour devenir vieux. Votre simple voix au téléphone, des nouvelles régulières de vous, des textos, des courriels, des Skype, des FaceTime, des petites visites me rendront heureuse. Vous êtes là, vous avez grandi avec moi. Je ne peux pas vieillir et surtout pas partir sans vous. Un très beau texte de Lorraine Bissonnette. Pour terminer l'émission, j'aimerais vous relire un texte et je reprends le texte qui a été publié, c'est-à-dire qui a été dit. C'est un discours prononcé le 24 juin 2018 sur les plaines. Un texte d'Anaïs Barbeau-Lavalette. À vous, petite fille du Québec, femme en devenir. Pour savoir d'où vous venez, pour vous enraciner, vous allez chercher des modèles comme je les ai cherchés. Les femmes sont très peu présentes dans le récit de l'histoire. Marie Rollet, Jeanne Mance, Élisabeth Coumontour, Eva Circé-Côté. Il vous faudra fouiller. Madeleine Parent, Réléa Robach, Judith Jasmin, Madeleine Arbour, Kenojoua Kachévac, Mary Tou Axerley. Les sources jaillissent au regard qui les cherche. Irma Levasseur, Irma La Jeunesse, Dorimène Desjardins, Hortense Globenski. J'ai lu leurs noms trop tard dans ma vie. Marthe Pellan, Jeanne Lapointe, Thérèse Casgrain. On devrait toutes pouvoir se les raconter comme on se raconte Maisonneuve, Papineau et René Lévesque. Marie-Gérin Lajoie, Simone Monet-Chartrand, Marcel Ferron. Leurs noms ressurgissent aujourd'hui, pépites d'or ensevelies depuis trop longtemps. Cherchons-les, trouvons-les. Qu'on les dépose enfin dans notre imaginaire, qu'on s'y abreuve chaque jour. Le Québec d'aujourd'hui s'est bâti grâce à elle. Le Québec d'aujourd'hui est celui de toutes les résistances inventives et inspirantes. Filles, femmes du Québec, tout reste à écrire et c'est à vous de le faire. À votre façon, en suivant votre chemin, et n'étant ni sage ni parfaite, en étant belle seulement quand ça vous tente, en assumant votre intelligence, votre puissance, en étant libre tout le temps. Bonne fête, femme du Québec. Discours de Anaïs Barbeau-Lavalette, prononcé sur les plaines d'Abraham le 24 juin, lors des fêtes de la Saint-Jean. Francine?
Vraiment dans un autre ordre d'idée, madame. Vraiment. Préserver son cerveau. Alors que les entreprises permettent de conserver en ligne une copie de nos photos numériques, la société américaine Nectome pousse le concept encore plus loin. Créer une copie de sauvegarde du cerveau humain. Le concept vient toutefois avec un bémol de taille. La manœuvre doit être effectuée sur une personne vivante, OK, mais elle est létale à 100 %. Donc, personne n'a encore subi ce procédé. Mais il y a quand même 25 personnes intéressées qui ont payé un acompte de 10 000 $ à la société américaine, 10 000 $ américains, pour pouvoir profiter du service quand il sera lancé. Alors, c'était dans l'actualité de juillet 2018.
Un beau papa. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour la belle façon de régir tout ça. Merci encore une fois, Francine, de tes beaux textes et de ta recherche. Hélène Bédard au micro, je vous dis que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à notre écoute et je vous
souhaite, je nous souhaite que vous soyez toutes là vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous.